simple formalité. De face, de dos, de trois quarts et de profil. La peau sur les os, la vie ne tient qu'à un fil. Regard paniqué, fiche anthropométrique, simple formalité.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. D'abord, tout de suite, quelques infos complémentaires et une bonne nouvelle. Les arrêts maladie pour burn-out sont bien valables. C'est le Conseil d'État qui vient de le confirmer. Au départ de cette affaire, c'est un médecin qui octroie un arrêt pour burn-out à une employée. L'entreprise de cet employé attaque le médecin devant l'Ordre des médecins en dénonçant un arrêt de complaisance. Ce que l'Ordre confirme alors, avant de voir cette décision annulée par la justice administrative. Alors que l'État cherche de plus en plus à réduire l'indemnisation des arrêts maladie, on espère que cette décision fera jurisprudence. Hier, à Bordeaux, c'était jour de conseil municipal. Il y a notamment été question de la Palestine. Une aide de 20 000 euros au Fonds régional Urgence Gaza, un fonds qui est porté par l'ONG Médecins du Monde, a été votée à l'unanimité. Une telle décision avait déjà été prise en décembre dernier. L'opposition de gauche a réclamé davantage de soutien encore pour le peuple palestinien, par exemple en hissant le drapeau de la Palestine au fronton de la mairie, comme c'est le cas pour le drapeau ukrainien depuis 2 ans maintenant. Le collectif Bordeaux en lutte demandait de son côté la fin du jumelage de Bordeaux avec la ville israélienne d'Ashdod, située au nord de la bande de Gaza. Pierre Urmic, de son côté, a défendu un positionnement équilibré de Bordeaux, qui est jumelé également avec la ville palestinienne de Ramallah. Le conseil municipal, hier, il a surtout été occupé par l'exposé du rapport de transition écologique et sociale, un rapport aux allures de bilan, puis l'exposé du compte administratif, soit beaucoup de chiffres que l'opposition et la majorité ont tour à tour cherché à faire parler en leur faveur. En tout cas, c'était la conclusion de l'article de Sud-Ouest qui était consacré et qui donc n'a pas voulu prendre parti. Dans Sud-Ouest, toujours aujourd'hui, et dans son supplément En quête de demain, on peut voir une carte qui représente la surface arborée par habitant dans les principales villes de France. Bordeaux en est à 31 mètres carrés, au-dessus de Paris, qui est seulement à 12, ou Lyon, 20 mètres carrés par habitant, mais en deçà de Marseille, à 43 mètres carrés par habitant, ou Toulouse, à 52, ou encore Auxerre, avec 97 mètres carrés arborés par habitant. Enfin, une centaine de maires alertent sur la disparition de la ligne de train Périgueux-Agen. Cette ligne a besoin d'être rénovée et ses travaux ont pris du retard. Seulement 2 trains par jour y circulent actuellement. Les maires dénoncent le refus de l'État et du Conseil régional d'inscrire les travaux de régénération de la ligne dans le prochain contrat de plan État-Région. Au cœur d'une zone particulièrement rurale de Nouvelle-Aquitaine, cette ligne fait office de dernier rempart à l'exclusion. Sans cette ligne, on devient un musée, on est mort, rappelle ainsi le maire de Belvès, cité par France 3. S'ils n'ont pas gain de cause dans les jours à venir, les maires annoncent vouloir bloquer, au moins temporairement, l'ouverture des bureaux de vote ce dimanche 9 juin pour les élections européennes. Midi 13 sur la Clé des Ondes, vous écoutez le plat de résistance, on s'intéresse au centre social du Grand Parc, le centre social et culturel d'ailleurs du Grand Parc, le GP Intensité, qui va fêter ses 20 ans le 15 juin prochain avec tout un tas d'animations. Alors il y aura d'une part l'Assemblée Générale de l'association, mais aussi des ateliers, des jeux, des concerts, expos, lectures théâtralisées, repas partagés, enfin voilà, une belle journée et soirée au Grand Parc. On reviendra sur toute cette programmation, mais d'abord on va revenir un peu sur l'histoire de ce centre social avec deux invités en studio avec nous. D'abord Nicole Gratacap. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Vous êtes ancienne directrice du centre social, vous l'avez été de 2000 à 2011. Et puis à vos côtés, Laure Pardon. Bonjour Laure.
Bonjour.
Coordinatrice de projet culture et vie locale dans ce centre social et culturel. Et puis on est aussi par téléphone avec Stéphane Marolo. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et vous êtes directeur du centre Tu es même, on peut surveiller, parce qu'on t'a déjà reçu plusieurs fois à la Clé des Ondes, notamment pour parler de la situation difficile dans les centres sociaux, et on reviendra d'ailleurs là-dessus. Mais on va commencer d'abord par un petit peu d'histoire et ce qui s'est passé il y a 20 ans, voire même un petit peu avant, puisque Nicole, j'ai dit que vous aviez été directrice à partir de 2000. Or, 2024 moins 20, ça fait 2004. Donc, qu'est-ce qui s'est passé déjà avant 2004, avant la création de l'association qui porte aujourd'hui le centre social et culturel? Qu'est-ce qui préexistait au Grand Parc, Nicole Gratacap?
Alors, ce qui existait depuis à peu près les années 60, 68, 70, je ne sais plus trop la date exacte, c'est la création d'un centre social qui était géré par une association qui s'appelait le Comité Girondin des Équipements Sociaux et Culturels, le COGESC, qui en fait était une association qui développait sur plusieurs quartiers de la métropole ou sur plusieurs communes de la métropole l'action sociale par délégation de la caisse d'allocation familiale de la Gironde. Donc le COGESC avait ses locaux administratifs dans les murs même de la caisse d'allocation familiale de la Gironde, et c'était du personnel CAF qui gérait administrativement aussi le COGESC, ainsi que l'agent comptable de la CAF, qui était le référent comptable de la bonne gestion du comité girondin. Voilà.
D'accord, mais donc ça veut dire qu'à cette époque, il n'y avait pas tant de lien, en tout cas le lien avec les habitants et habitantes du quartier était pas fait. Alors,
le lien était autant assuré par la mise en place de conseils de gestion, ce qu'on pourrait appeler des conseils de maison dans d'autres associations, qui n'avaient aucun, qui avaient un rôle de consultation, mais qui n'avaient aucun pouvoir de décision, aussi bien sur les affectations budgétaires que sur le développement même de certaines actions. Tout ça a été soumis à l'approbation du conseil d'administration du comité girondin et de son président.
Et donc c'est ça qui a changé en 2004, c'est ça, avec la création d'une association qui porte depuis cette date le centre social?
Alors ça n'a pas tout à fait changé en 2004, ça a changé vraiment en 2006, parce que entre 2000 et 2004, suite à, on va dire, un audit qui a eu lieu sur la caisse d'allocation familiale de la Gironde, il a été conseillé à cette dernière d'externaliser le comité girondin, voilà, pour pas qu'il y ait confusion dans les modes de gestion. Donc le comité girondin à ce moment-là a été externalisé, ses murs, voilà, il a changé de lieu, et il y a eu aussi une réflexion pour que ce comité girondin devienne un centre de ressources dans un premier temps. Et donc et la perspective était annoncée par la CAF aussi de travailler à l'autonomie des 17 centres sociaux qui étaient alors gérés par le comité girondin. Donc, ce qui s'est passé plus précisément sur le Grand Parc, c'est qu'en 2004, il a été décidé avec le conseil de gestion de l'époque et la présidente de ce conseil de gestion, Béatrice Chambol, de créer une association un peu pédagogique, c'est-à-dire de créer une association pour commencer à travailler avec les membres du conseil de gestion au rôle d'administrateur officiel, au rôle de président, au rôle à la fonction employeur aussi d'une association. Tout ça dans la perspective de préparer les gens en 2006 à vraiment être autonomes.
D'accord. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y avait non seulement le centre social et culturel du Grand Parc, mais 16 autres centres sociaux de Gironde, oui. C'est ça, qui ont été dans cette même démarche-là, voilà. À ce moment-là.
Alors non, il n'y a que le centre social du Grand Parc qui a été dans la démarche en 2004 de créer une association, on va dire, prévisionnelle, dont le but c'était de préparer les bénévoles à être capables de prendre des décisions, de les voter en pleine conscience et d'assumer les choix budgétaires qui étaient liés à ces décisions.
Comment c'était perçu ça à l'époque ? Parce qu'on va revenir aujourd'hui sur, et ça nous paraît normal aujourd'hui, qu'il y ait un conseil d'administration avec des bénévoles qui participent à l'administration d'une structure comme un conseil d'administration, comme un centre social, je veux dire, comme plein d'autres assos, et voilà, la Clé des Ondes, on est dans le même bateau. À l'époque, comment ça a été perçu, ce fait que quelque chose qui vient de la CAF, donc si j'ai bien compris, devienne géré par des habitants, habitantes, comment c'était vu ?
Alors, en fait, il y a deux temps. En 2006, c'était la date butoir donnée par la CAF pour que les centres sociaux soient autonomes, mais avec quand même une obligation qui était aussi donnée à ces centres sociaux. C'était d'être adhérent du centre de ressources, voilà, et d'être adhérent aussi d'une unité économique et sociale qui venait en lieu et place de l'action sociale du COGESC au travers du comité d'entreprise. Voilà. Donc, avec tout ce que ça implique de représentation des salariés au sein d'un comité d'entreprise. Donc, l'obligation, le centre de ressources restait quand même, on va dire, maître un peu de la gestion comptable des centres sociaux, c'est-à-dire qu'il y avait une gestion autonome associative, mais quand même encore, on va dire, un accompagnement des centres d'un point de vue comptable et d'un point de vue gestion du personnel. Voilà.
On reviendra sur tous ces aspects comptables qui sont cruciaux aujourd'hui, mais peut-être voilà. Sur l'aspect plus démocratique. À l'époque, comment, voilà, qu'est-ce que ça a produit ? Est-ce que ça a été simple, d'abord, peut-être, de trouver des personnes qui se forment, qui deviennent administrateurs, administratrices bénévoles, et puis qui s'impliquent ensuite dans la gestion, dans la participation à ce centre social ? Et comment le lien, en fait, entre, voilà, ce que j'ai dit à l'heure, un peu le lien entre les habitants, habitantes, le quartier et le centre social, il a pu se... J'imagine qu'il préexistait avant 2004, mais comment il s'est peut-être renforcé au fil des années, Nicole Gratacap ?
Alors, et ça a été très facile, en fait, de trouver des volontaires, parce qu'on a commencé avant 2004, sur le centre social, par mettre en place des actions de formation, des actions aussi avec le GFEN autour d'ateliers d'écriture.
Le GFEN, donc le Groupement Français d'Éducation Nouvelle ?
Voilà, des ateliers d'écriture, des intervenants, je me souviens pas forcément de tout le monde, mais enfin on a mis pas mal d'actions de formation en place, ces formations rassemblaient à la fois des bénévoles et des professionnels. C'était une façon aussi pour que les gens se retrouvent autour d'un projet commun de formation, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à débattre. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'avait semblé problématique dans l'accès à l'autonomie, c'est qu'il y avait très peu de débats. Il n'y avait pas de débats. C'est-à-dire que les membres des conseils de gestion, en tout cas sur le Grand Parc, n'étaient pas habitués à débattre, voire même à des débats contradictoires. C'est toujours le président du COGESC qui, à un moment donné, arrêtait la décision, et les gens étaient très frileux dans la prise de parole. Ils étaient craintifs, ils avaient peur de dire des bêtises, ils avaient peur de se tromper. Et donc, tout le travail avant 2004, et je crois qu'il se poursuit encore d'ailleurs, c'est de travailler à cette prise de parole, à cette mise en confiance aussi, au fait qu'on a le droit de se tromper, qu'on a le droit d'essayer, de poser des questions. Et donc, à partir du moment où ce préalable était posé, pour les gens, ça devenait, je veux dire, il m'a semblé comme une évidence, quoi. Ça s'est fait progressivement. Et quand on est arrivé après définitivement à l'autonomie associative, en 2006, les gens étaient déjà préparés au débat, étaient préparés même au débat, même au conflit que pouvait engendrer une divergence de point de vue.
Et alors, parce qu'on va revenir peut-être sur tous les aspects de l'action du centre social, mais il y a notamment la question de l'éducation populaire et de développer le pouvoir d'agir. Ça veut dire que cet aspect-là de développer le pouvoir d'agir, il commence par le pouvoir d'agir au sein de la structure en étant acteur, actrice de cette structure et de son développement.
Voilà. Donc ça, c'est une première partie. Effectivement, l'accès, on va dire presque, légal, juridique, à la fonction d'administrateur, qui donnait une légitimité aussi aux élus, qui leur donnait aussi une légitimité pour interpeller les élus, que ce soit les élus de la ville, les élus du département. Ils avaient cette légitimité-là. Moi, je disais toujours, les élus parlent aux élus, les élus associatifs parlent aux élus, de la ville ou du département. Et donc, ça leur donnait une légitimité. Et puis, après, par contre, c'est vrai que le maître mot, à ce moment-là, qu'on entendait aussi bien au niveau de la CAF que du centre de ressources, c'était de dire, l'autonomie, c'est pas l'indépendance. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'indépendance, elle passait aussi par la gestion, les choix qui impliquaient à un moment donné les finances du centre et qui impliquaient aussi les finances, les choix d'action et les finances, le financement de ces actions. Donc là, il a été décidé après, en 2007, je crois, un an après l'autonomie associative, de prendre l'autonomie vis-à-vis du centre de ressources. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le centre social, le bureau, le conseil d'administration a décidé de faire appel à ses propres ressources comptables, chercher un expert comptable, gérer le personnel, la fonction employeur vraiment complète, et donc de sortir du centre de ressources, ce qui a été fait, tout en gardant quand même ce qui nous semblait, nous, essentiel et important, l'unité économique et sociale, qui était le garant aussi des plans de formation des salariés et de toute l'action sociale de la fonction employeur.
Alors c'est un petit peu technique, mais l'unité économique et sociale, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'association, mais elle est regroupée au sein avec d'autres associations pour former un collectif plus large donne davantage de droits aux salariés, en gros.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, peut-être maintenant revenir sur les actions, ce qu'a fait ce centre social et que continue à faire aujourd'hui, mais c'était quoi les activités peut-être principales à l'époque, dans ces années 2000, lorsque vous étiez directrice, Nicole Grattacap, qu'est-ce qui, en quoi le centre social était peut-être important dans la vie du quartier, qu'est-ce qu'il permettait ?
Alors, il y avait des actions surtout tournées vers les familles. Donc, la famille, c'était, on va dire, l'accueil des enfants, l'accueil aussi des parents, des mamans, des activités d'ateliers, autour d'ateliers, alors qui ont évolué, certains ont disparu, même parce que le besoin s'en faisait plus sentir. Il y a eu par le passé, par exemple, des ateliers menuiserie, parce qu'on était encore dans ce contexte de construire soi-même son environnement. Alors que, là, ça ne se justifiait plus. Donc, il y a aussi une évolution. Les centres sociaux ne restent pas, bloqués sur des pratiques d'ateliers. Quand, à un moment donné, une pratique ne se justifie plus, il y a tout le temps ce besoin d'évolution permanente, je dirais presque de révolution permanente, parce que c'est en lien aussi avec les besoins exprimés par les publics. Ou les besoins exprimés, ou quand même, parce que les professionnels ont aussi cette formation-là, les besoins identifiés sur un territoire, au travers d'un diagnostic et d'une analyse là plus sociologique. Et donc, quand on prend en compte la dimension des besoins d'un territoire, forcément, les actions évoluent. Donc, y a ces actions, quand je suis arrivée, il y avait ce qu'on appelle le périscolaire, l'accompagnement à la scolarité, il y avait l'alphabétisation, mais même ces accueils-là ont évolué, parce que le public aussi n'est plus le même. Et par exemple, il a été mis en place un accueil spécifique pour les, on va dire, les zéros, enfin les 3 mois, 3 ans en gros, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, les mamans en particulier, ne venaient pas à certaines activités parce qu'elles n'avaient pas de solution de garde. N'étant pas salariée, elle n'était pas prioritaire sur les modes de garde collectifs qui existaient sur le Grand Parc. Et donc, il y a eu toute une réflexion qui a été engagée à ce moment-là, en partenariat d'ailleurs avec la crèche et la halte garderie du Grand Parc, pour apporter une réponse aux 3 mois, 3 ans, qui était à la fois une réponse permettant à la maman de venir au centre social pour participer à des activités, mais aussi préparer après la maman et l'enfant à une séparation pour intégrer un mode beaucoup plus, on va dire, un mode collectif, que ce soit en halte garderie ou que ce soit après l'école maternelle.
Je vais donner la parole au directeur actuel du centre social, peut-être pour dire justement comment est-ce que ce lien et le fait de rester proche des besoins des habitants, des familles du quartier, il a pu se faire, il continue à se faire, Stéphane Marolo. Vous avez l'impression d'arriver à pouvoir rester au contact de ce que sont les besoins des habitants aujourd'hui à Grand Parc et comment ça s'est fait au fil des années ?
Oui, d'abord, merci beaucoup à Nicole pour ce retour historique extrêmement précis et toutes mes amitiés. Et si vous voulez, effectivement, la caisse d'allocation familiale prévoit de toute façon que les centres sociaux renouvellent leur projet tous les 4 ou 5 ans et le fassent au travers d'un diagnostic partagé. Et il se trouve qu'actuellement, on est en train de finaliser nos diagnostics là, pour la période de renouvellement suivante. Et en réalité, il y a, on va dire, des choses qui restent permanentes, c'est-à-dire que, y compris lorsqu'on regarde les témoignages de lors de la création du centre social en 1968, on a une responsable à l'époque qui prend la parole, on a une archive INA qui est très intéressante à regarder. On voit bien qu'il y a des éléments de permanence. Par exemple, la question des modes de garde, comme qu'a évoqué Nicole, c'est toujours permanent, c'est toujours actuel, mais c'était déjà présent en 1968, vous voyez. Donc ça, il y a des choses qui vont rester, des besoins qui sont essentiels et qui perdurent. C'est la même chose pour la question de tout ce qui relève, on va dire, de la cohésion sociale, de la consolidation des liens sociaux. Ce sont des éléments permanents qui passent essentiellement par des espaces de rencontres, de paroles, animation de la vie locale, etc. Et puis, il y a aussi des changements dans les pratiques qui sont liées à l'évolution de la société. Je peux prendre un exemple. Là où le centre social a renforcé vraiment son action, ces 20 dernières années, c'est tout ce qui concerne l'allée verte, hein, la capacité à intervenir sur l'espace public. Laure, qui est présente là dans votre studio, elle peut en témoigner puisqu'elle participe activement à cette dimension de notre travail. Et cette capacité à lutter contre l'isolement, à aller vers les publics les plus éloignés, les plus fragiles, ça c'est une capacité qu'on a vraiment fortement développée ces dernières années, qui était beaucoup moins présente quand même dans les années 80 ou auparavant. Donc on voit qu'on a une capacité de faire évoluer en fonction des besoins, mais que néanmoins il y a quand même des grandes lignes qui restent présentes.
Laure, un mot là-dessus sur comment se fait cette allée vers et ce lien avec les habitants.
Alors il se fait de différentes façons et à différentes occasions. En fait, l'idée c'est de sortir de nos murs et d'être vraiment au plus près de la vie quotidienne des habitants dans des espaces-temps qui sont les leurs. Notamment, ce qui peut illustrer ces deux actions qui sont ritualisées maintenant pour nous et qu'on met en place une fois par mois. L'une s'appelle « On se fait une entrée » où pendant une journée entière, on investit en hall d'entrée sur invitation d'un des habitants de ce hall. On customise l'espace, on réaménage l'espace avec un espace convivial, un espace de gratuité. Et en fait, on est là disponible pour uniquement rencontrer et créer de l'interconnaissance avec les personnes qui habitent ce hall d'immeuble. La deuxième, c'est sur la place du marché, pendant le marché du Grand Parc, le samedi matin, où on aménage un espace de convivialité dans le même esprit, c'est-à-dire vraiment un espace où on est là, disponible pour créer de l'interconnaissance.
Et alors justement, toi, est-ce que tu vois l'évolution des demandes aussi des gens? Alors il y a la question de comment créer le lien et comment aller vers eux, mais aussi de qu'est-ce qu'eux, ils ont comme besoin, comme demande. Est-ce que ça, on voit une évolution? Toi, tu vois une évolution au fil des années?
Alors, il y a des petits points d'évolution, mais après, il y a quand même beaucoup de similitudes, je dirais. Notamment sur les besoins de se rencontrer, sur des besoins d'avoir des espaces d'échange, de convivialité. Peut-être que ce qui ressort un peu plus maintenant, c'est des besoins d'espaces de débat et d'échange aussi. Voilà. Après, bien sûr, il y a toutes les questions qui sont plus traditionnelles d'accès aux droits et d'accompagnement sur des choses plus administratives qui arrivent aussi. Mais c'est sur ces temps-là, c'est vraiment ce qui ressort, c'est vraiment les besoins de rencontre en fait.
Très bien. Peut-être on peut dire un peu ce qui va se passer, Laure, ce samedi 15 juin. Donc ça commence par l'Assemblée Générale, si je ne me trompe pas.
Alors ça commence effectivement à 14h par l'Assemblée Générale. Donc l'idée, c'était de partager un peu la vie du centre, qui pour les personnes qui ont construit cet événement, salariés et bénévoles, hein, puisqu'on l'a vraiment co-construit. Ça ensemble, c'était une ambiance de village. Voilà, le centre social, pour à chaque fois qu'on échange avec les personnes, il y a cette image un petit peu qui ressort. Donc on a voulu traduire ça un petit peu par l'aménagement qu'on va mettre en place sur les extérieurs, puisque tout va se passer en extérieur. Donc ce sera un grand village avec beaucoup de choses à l'intérieur, qui commencera effectivement... qui commencera. En tout cas, la première manifestation, ce sera l'Assemblée Générale de GP Intensité pour cette année-là. Viendra ensuite de 15h30 à 18h45, on va dire à peu près.
Peut-être juste sur l'Assemblée Générale, est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce que voilà, on parlait tout à l'heure de cette question d'avoir des personnes qui s'investissent pour la gestion de l'administration. Est-ce que c'est un enjeu pour vous? Est-ce qu'il y a un appel à bénévoles à lancer? Est-ce qu'il y a déjà du monde et c'est quelque chose qui tourne pour vous? Peut-être en deux mots, Laure?
C'est toujours un enjeu, de toute façon, et comme beaucoup d'associations aussi, on subit un petit peu le contexte général, et donc effectivement, comme beaucoup d'associations, un peu moins de bénévoles, un peu moins aussi de personnes qui se sentent légitimes à prendre des responsabilités. Oui, il y a un enjeu. Que ce soit au niveau du conseil d'administration ou que ce soit au niveau du bénévolat par rapport à montrer que c'est possible, en fait. Que ce soit chacun à son échelle, un petit peu ou beaucoup. Parce qu'il y a aussi cette question de temporalité à l'heure actuelle dans le bénévolat, avec d'autres priorités, notamment dans les quartiers dans lesquels on est, pour les personnes que ça.
Donc ça, c'est le début d'après-midi. Et puis ensuite, il y aura un temps plus d'animation, de jeux, de stands, c'est ça, dans ce petit village?
Oui, alors là, c'est vraiment l'idée de montrer, en fait, et de partager le quotidien, on va dire, du centre social. Tout ce qui peut s'y passer, tout ce qui peut s'y vivre, tout ce qui s'y est passé et se vivre aussi. Avec des animations... aussi bien artistique, avec des ateliers d'écriture, des ateliers de dessin, une fresque participative, des créations avec de la récupération, des expositions, il y aura un espace de gratuité. Enfin, en fait, tout ce qu'on trouve d'habitude sur la semaine dans le centre social ou sur l'année dans le centre social, on va essayer de donner des petits goûts, des petits extraits, on va dire, de ça, pendant ce temps-là. Et tout ça accompagné aussi, de temps en temps, par de la musique, avec, avec le steel band de Panspation qui viendra ponctuer ce temps d'après-midi. Oui.
Super. Il y aura ensuite une lecture théâtralisée avec la compagnie des Petits Tréteaux.
Tout à fait. Alors, c'est un travail qui a été fait dans le cadre des ateliers de théâtre adultes, adultes, ados, enfants, puisque c'est assez mélangé en termes d'âge, très intergénérationnel, et c'est une volonté de cette association, hein, de ne pas compartimenter. C'est en retour, on va dire, du travail qu'ils ont fait sur l'année, sur une thématique qu'ils ont choisie avec des textes qu'eux ont choisis sur ce temps-là.
Très bien, et ça se terminera de manière plus festive par un repas partagé et des concerts, c'est ça ?
Absolument, alors un grand repas partagé, alors c'est vrai que maintenant au Grand Parc, ça devient un petit peu traditionnel.